On est réunis aujourd'hui pour le lancement du coup de Embryon Personne et Parenté, qui est un ouvrage qui a été dirigé par Séverine Mathieu, ici présente. Je sais pas si je te laisse te présenter, présenter tes travaux.
Maintenant?
Ouais,
d'accord.
Non, mais je sais pas parce que il y a peut-être des gens qui te connaissent
non,
pas.
Non, mais je vais le faire. Bonjour. Déjà, merci à la FMSH et à Pauline Guillot d'organiser, d'animer ce moment. Je suis Séverine Mathieu, je suis sociologue, je suis directrice d'études à l'École pratique des hautes études et je travaille depuis maintenant une douzaine d'années sur les questions de reproduction, de filiation et d'assistance médicale à la procréation. En fait, en essayant d'interroger ce qui a trait à la question des normes religieuses, en fait. Donc je pratique des enquêtes de terrain. Dans des milieux hospitaliers et j'ai travaillé sur l'accueil d'embryons, sur l'accès à la PMA et plus récemment je me suis recentrée sur cette question de la religion et j'ai abordé la façon dont les religions et notamment catholiques en fait s'étaient mobilisées contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et ce faisant j'interroge en fait les représentations de la filiation, de la parenté, de la maternité. Voilà. Pour l'instant, c'est tout.
Moi, je me présente rapidement. Du coup, je suis Apolline Guillot. Je suis journaliste et philosophe des techniques. Je suis très intéressée par ces questions-là de l'impact des technologies, notamment des technologies de biomédicales sur la perception qu'on peut avoir de la filiation et de la parenté. Et effectivement, donc, c'est l'objet de l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui qui est à la fois une portée anthropologique puisque ça examine le rapport à la parenté, à la construction de la filiation dans les cultures non occidentales et par exemple dans l'Antiquité, mais également, et c'est ça qui moi m'a tout de suite frappé, c'est que ils font un pont en fait entre ces cultures non occidentales et reculées, enfin dans le temps en tout cas puisque on parle de Platon, avec la société contemporaine, les biotechnologies, la fécondation in vitro et toutes ces questions là. Et du coup, je pense que c'est peut-être dans un premier temps pour que tout le monde se fasse une petite idée du contenu de l'ouvrage. Je pense qu'il serait intéressant de rappeler ensemble la genèse du projet, peut-être.
Très bien. Ouais.
Il me semble que c'est parti d'un séminaire, c'est ça qui a été.
Alors
ensuite,
en fait, c'était le séminaire de Henrik Porquerès Higenet qui se tenait au 105 boulevard Raspail. Donc c'est un séminaire bimensuel. Et pendant 2 ans, Henrik a souhaité travailler sur la question de l'embryon. En invitant des chercheuses qui travaillaient sur ces questions, mais qui venaient de différents horizons disciplinaires. C'était un peu le principe de différents horizons disciplinaires et différentes aires géographiques également, et pour pouvoir essayer de comprendre ensemble en fait comment on pouvait penser un embryon en relation avec ce que c'est qu'un individu également et dans un horizon plus large aussi dans ses relations avec ce que c'est que la parenté. On y a vu intervenir. Donc c'est aussi le séminaire qui rassemblait ses doctorantes et doctorants, parmi lesquels Noémie qui est ici aujourd'hui, Marie Picon aussi qui est ici aujourd'hui, est intervenue dans ce séminaire. Anne en était une fidèle auditrice au bout de 2 ans, en fait, on était tellement réjouis en fait de la vitalité. Enfin, c'était vraiment un rendez-vous qui était très chouette où il y avait un groupe de personnes qui se retrouvaient et on était tellement réjouis de la vitalité des interventions et puis de cette richesse que Henrik m'a proposé qu'on en fasse un ouvrage collectif. Voilà. Donc on a contacté les unes les uns les autres. On a essayé de monter un programme. Certains n'étaient pas disponibles. Par exemple, on a eu une intervention d'un psychanalyste aussi qui était Sylvain Missonnier sur ces questions de d'embryon. Il y en a eu toute une série de voilà. Donc on a sélectionné et se sont sélectionnés des collègues pour essayer de contribuer à ce numéro. Et on a eu en tout cas on avait le souci que soient représentées différentes époques, différentes approches, avec effectivement ce qui nous rassemblait beaucoup, enfin pour la plupart d'entre nous, la question des biotechnologies de la reproduction, d'où ce découpage en deux parties.
Et du coup, tu parles beaucoup d'embryons, enfin c'est quand même le mot qui revient le plus dans tout l'ouvrage. Et qui est prononcé dans plein de contextes différents. On a l'impression que c'est un terme très plastique qui prend des sens qui varient en fait d'une discipline à l'autre, d'une période à l'autre. Du coup, est-ce que c'est pertinent d'essayer de définir ce que c'est qu'un embryon ? Est-ce que la définition Wikipédia de base suffit pour comprendre ce que ça recouvre ?
Bah, précisément, ce qu'on avait trouvé intéressant avec Henrik, c'est que malgré tout, alors il y a à la fois une diversité, une pluralité des définitions de l'embryon, mais qui renvoient tous à cette idée d'un être prénatal dont on ne sait pas très bien quoi faire. Malgré tout, certains vont lui attribuer des forces, certains vont le relier à une histoire, certains vont penser que si on ne s'en occupe pas, je pense par exemple au texte de Marie sur les Mizuko au Japon, et en fait, donc l'idée c'est de s'occuper d'embryons issus de fœtus, de fœtus morts en fait, auxquels on rend hommage, et avec l'idée que si on ne leur rend pas hommage, ben ça va se retourner contre nous. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de définition univoque, il y a une constellation de choses, mais qui en font un être quand même prénatal assez particulier, chargé de significations diverses, de potentialités. Par exemple, en France, le Comité consultatif national d'éthique a son premier avis porté, parce qu'il émet donc des avis, ce comité consultatif national d'éthique, et son premier avis porté sur l'embryon précisément, et disait l'embryon est une personne humaine potentielle. Voilà, donc est-ce que, et je dirais que l'intérêt de ce séminaire, c'était d'interroger précisément cette potentialité ici et ailleurs, et hier, aujourd'hui.
Voilà. On voit bien qu'en fonction de la définition qu'on donne du terme d'embryon, on peut déjà voir tout un système de croyances, de représentations qui sont derrière, quoi. Quand on parle d'enfant, de fœtus, enfin ça veut pas dire la même chose, et c'est ça qui est passionnant, quoi. Et la façon du coup dont vous abordez dans tout l'ouvrage la question de la parentalité, de la fabrication, qu'est-ce que c'est que de fabriquer un être humain. Donc il suffit pas juste d'un homme et d'une femme, mais il suffit de... Enfin, il y a beaucoup de relations sociales impliquées, beaucoup de relations médicales. Et ce qui est assez surprenant quand on lit le livre pour la première fois, c'est que la façon dont c'est organisé, on voit vraiment qu'il y a une première partie qui s'intéresse du coup à l'Antiquité, donc avec Platon, à l'Inde, au Japon, enfin donc des cultures non occidentales ou anciennes. Et on arrive dans cette deuxième partie qui porte, elle, beaucoup plus sur un travail de terrain dans les hôpitaux, auprès des médecins, auprès des gens qui s'occupent d'implanter les embryons dans des êtres humains. Et du coup, on a une coupure à la lecture, en tout cas, qui est, quand on ne connaît pas le sujet, qui est assez surprenante parce qu'on ne sait pas vraiment... on passe d'un monde à l'autre, quoi. Et donc, du coup, je voulais vous demander... comment vous avez pensé l'articulation entre ces deux parties-là, entre ces deux façons de voir, et comment, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une rupture entre la première partie et la deuxième partie, et comment les deux se répondent, en fait?
En fait, on avait le sentiment que la première partie, c'est-à-dire l'idée d'aller voir ailleurs et autrefois, en quelque sorte, ça permettait de nourrir précisément les interrogations. Par exemple, je pense au texte de Laurent Doucet sur le désert de l'Est, de l'Ouest, les aborigènes des déserts de l'Ouest australien, dans lequel il explique que pour donner vie en fait à un embryon, il faut déjà qu'il y ait il y a un esprit enfant qui va s'insuffler et d'une part et d'autre part que on va également lui donner les caractéristiques d'un ancêtre connu. Et cette idée, par exemple, des caractéristiques de l'ancêtre connu, je dirais que c'est des interrogations qu'on retrouve dans les biotechnologies de la reproduction à propos du don, du don d'ovocytes, du don de sperme, et qu'est-ce qui fait un enfant et qu'est-ce qui fait le parent. Voilà. Et est-ce que cet embryon, il va falloir qu'on lui... il y a d'abord cet esprit, il faut qu'on lui insuffle cet esprit enfant, après qu'on lui attribue des caractéristiques pour l'inscrire dans une lignée. Et ces questions de l'inscription dans une lignée, c'est précisément ce qui se joue aussi avec les biotechnologies de la reproduction. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Comment est-ce que cette question de la... Comment ça se pose, en fait, en quels termes ça se pose dans les biotechnologies?
Par exemple, la question qui va se poser dans le cas d'un don de sperme, la question qui peut se poser, c'est qui est le père et qu'est-ce qui fait le père? Est-ce que c'est ce gamète qui va permettre de, ou est-ce que c'est le père qui décide, qui accepte que ce gamète qui n'est pas le sien soit permette la fécondation d'un embryon? Donc c'est un petit peu on retrouve les mêmes interrogations: qui transmet quoi, comment le transmet-on, qu'est-ce qui fait le parent, qu'est-ce qu'un individu aussi, cet enfant potentiel de qui est-il l'enfant, et comment on va l'inscrire désormais aussi dans une lignée. Mais voilà, vous citiez Godelier là tout à l'heure. D'une part, il a suffi d'un homme et d'une femme pour faire un enfant. Donc c'est ce qu'on voit dans cette première partie, et c'est ce qu'on continue de voir également dans la seconde.
Et c'est ça. Enfin, je pense que c'est une des vertus aussi de l'ouvrage, c'est de permettre de décentrer un peu le regard, parce qu'on a souvent tendance à séparer d'un côté les mythes, la religion, etc., et de l'autre côté tout ce qui serait le naturalisme scientifique, le réductionnisme un petit peu, qui reviendrait à dire que la parenté, c'est 100% génétique, et ça serait quasiment une quête d'authenticité, quoi. Il faudrait retracer l'ADN des parents, et puis par une savante combinatoire, on arriverait à peu près à avoir un individu viable. Et du coup, on voit quand même que tout l'ouvrage est travaillé par ce clivage entre deux visions quand même de la filiation qui sont... en apparence, en tout cas, assez différentes. D'une part, la filiation comme un phénomène social avec des rôles de parenté partagés, une communauté tout autour qui va structurer la parenté, qui va la faire naître, enfin la relation qui crée l'individu. Et de l'autre côté, on est plus, à partir du XVIe siècle en Europe, c'est ce qui est dit dans le livre, mais ce travail de scientifisation de la parenté, d'en faire... quasiment un objet de science, un objet de connaissance, et donc un objet de vérité, et donc réduire en fait la filiation à simplement l'héritage génétique, quoi. Et du coup, il y a une espèce de tension qui est jamais vraiment résolue, parce que je pense qu'elle travaille tout l'ouvrage. Et comment ça vous a permis, comment vous avez abordé ce clivage? Est-ce que c'est un clivage qui est pertinent? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certaines sociétés qui fonctionnent comme ça et d'autres qui fonctionnent autrement? Ou qu'est-ce que ça vous a permis de mettre au jour?
En fait, je crois que les sociétés, elles fonctionnent toutes... il n'y a pas d'un côté certaines sociétés et de l'autre d'autres. Il y a une espèce de plusieurs choses. Enfin, tout le monde va piocher un petit peu. En fait, ça me fait penser la question que vous me posez à ce que raconte Henrik dans son article sur la question du hasard, en fait, avec l'idée que tout d'un coup, ces progrès de la génétique, ces progrès en matière de procréation médicalement assistée, fait qu'on va éradiquer le hasard. Et en fait, ce dont on s'aperçoit quand on fait des enquêtes de terrain, je pense que Noémie peut en témoigner également, c'est que cette invocation du hasard, elle est faite aussi bien par les patients qui sont en procédure d'assistance médicale à la procréation que par les médecins aussi, qui vous disent, là, on ne sait pas, peut-être que ça va marcher, c'est un miracle. Je pense pas qu'il y ait cette dichotomie qui soit là, puisqu'on retrouve à la fois cette invocation du hasard, on retrouve également cette non-assurance aussi que les choses soient possibles, des espèces de superstitions aussi chez les patients. Moi, sur mes terrains, sur l'accueil d'embryons, par exemple, les gens qui ne veulent pas prononcer le terme, le mot même d'embryon, quand je leur demande « mais c'est quoi pour vous un embryon ?» Et bien, si je vous dis ce que c'est, ça va me porter malheur. Ça fait 10 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. J'ai fait une succession de fausses couches. Et donc, si je vous dis ce que c'est que cet embryon, il ne pourra pas. C'est-à-dire, si je le nomme, il ne pourra pas se matérialiser. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question.
De toute façon, la question du langage, on avait commencé avec ça et la définition de ce que c'était qu'un embryon. Et on voit que le fait même de le faire rentrer dans le langage, ça le fait déjà exister d'une certaine manière, quoi. Et puis, il y a aussi la question, je me demandais, de la responsabilité des médecins et comment les médecins, eux, perçoivent les embryons qu'ils vont implanter, ou bien comment le personnel médical, en fait, manipule ces embryons.
Alors, ils transfèrent les embryons, ils ne les implantent pas. C'est l'embryon qui s'implante ou pas, mais l'embryon, il est transféré.
Okay.
Mais précisément, en fait, c'est une remarque extrêmement intéressante parce que, par exemple, quand on fait un transfert d'embryon, j'ai assisté, à titre personnel, à des transferts d'embryons. Et certains médecins ont bien le soin de dire, attendez, ce que vous voyez là, ce point, il est grossi, 25, je ne sais plus combien de fois, de milliers de fois, ce n'est pas un embryon, mais de la même façon aussi, ils essayent, pas toujours avec succès, de ne pas anthropomorphiser cet embryon. C'est-à-dire que, par exemple, dans des consultations, on voit des médecins qui disent, oh là là, ils sont beaux vos embryons. Ou à celui-là il est moche, il a une drôle de tête, et là je dirais que j'ai vu une évolution sur mes terrains, alors peut-être que c'est aussi les services dans lesquels j'ai fait ces enquêtes, mais avec ce souci d'attention précisément à ne pas incarner, à ne pas nommer ces embryons. Et c'est vrai que le fait de pouvoir les voir aussi, ces embryons, de les voir grossir, de les voir, ça c'est ce que montre par exemple Luc Boltanski dans La Condition fœtale, mais dans notre ouvrage c'est ce que montre Giulia Colavolpe qui parle à propos des fœtus, de la bébéisation des fœtus, où elle dit ces fœtus deviennent ces embryons deviennent
la bébéisation
elle dit. Ces embryons deviennent des personnes, donc c'est le nommer, le voir. Enfin, c'est-à-dire que il y a ce parallèle à faire aussi entre nommer et voir. Dans cette enquête que j'évoquais, du coup, moi, je demandais aux gens de dessiner un embryon. C'est quelque chose qu'avait fait Anne-Sophie Giraud dans sa thèse, et moi, je l'ai repris dans ce travail sur l'accueil d'embryons. Certaines des personnes rencontrées ne voulaient absolument pas dessiner
ni voir, ni dessiner, ni nommer,
ni le dire, ni le dessiner, parce que ça allait porter malheur. C'est par rapport à cette question de la superstition que je dis ça. Voilà.
Ouais.
Et du coup, ça fait également le lien entre cette première partie et cette deuxième partie. C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette deuxième partie que tout ce qu'on pourrait qualifier d'un peu étrange ou de le raccrocher à des sociétés qui ne sont pas les nôtres, étranges, anciennes, et ben en fait, il y a toujours ce mystère de l'embryon voilà, qu'on ne veut pas nommer, qu'on ne veut pas dessiner, à qui on attribue des qualités. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup, cet embryon qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas dessiner, on lui attribue quand même la qualité de. Parce que ben, si je le dessine et si je le dis, il va me faire un sale tour et puis il va pas s'incarner. Ouais. Donc voilà. Donc c'est en cela aussi qu'il y a de l'écho entre la première et il est facétieux cet embryon aussi.
Oui, mais c'est ce que vous disiez. Enfin, au tout début de votre réponse, vous parlez du hasard et de la. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un fondement quasiment métaphysique, quoi, dans le fait de vouloir conserver un peu de hasard dans un processus qui sinon est très très contrôlé, enfin scientifiquement très suivi. Et donc du coup, c'est ouais, l'espoir de garder quand même un petit peu une liberté individuelle et un statut spécial à l'humain. Qui serait pas comme la brebis d'olive ou n'importe quel autre vivant, quoi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'humain aussi et qui est pas. Enfin, j'imagine que la. Enfin, je sais pas si vous avez étudié la manipulation reproductive d'autres espèces que les êtres humains, mais j'imagine que le hasard y est beaucoup moins présent. Enfin,
moins mentionné, vous voulez dire.
Moins mentionné, ouais. En tout cas,
je ne sais pas.
Il y a pas les mêmes superstitions, j'imagine, pour des.
Mais en tous les cas, c'est très fort. Et ça, c'est ce que montrent très bien les ethnographies de Noémie aussi. Mmh. C'est ce mystère qu'on essaye de perpétuer, ce désir aussi de ne pas s'attribuer non plus de la part des médecins à la naissance d'un enfant. C'est un médecin qui me disait, mais quand les patients viennent me voir et me montrent leur bébé en disant, ça, c'est votre fils, c'est votre bébé. Et je leur dis tout de suite, mais non, c'est pas du tout mon enfant. Voilà, donc ce hasard, ce mystère, on tente de le préserver. Et dans les observations, dans les entretiens, les médecins disent « Après, ce n'est pas nous qui décidons. » Voilà, après, c'est la nature. Alors, si ça rejoint aussi une de vos préoccupations, c'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est cette invocation de la nature. C'est-à-dire qu'on est dans un processus extrêmement technicisé, maîtrisé à beaucoup d'égards, mais qu'en dernier recours, à la fois pour ne pas être dans une espèce de situation de toute puissance et puis aussi pour préserver la possibilité que ça ne marche pas, et ben, ce qu'on va invoquer, c'est la nature. Après, c'est la nature qui décide. Et ça, ce mot de nature, il revient souvent dans la...
Ouais, c'est au moment de l'implantation ou non de l'embryon dans le corps de la femme aussi que ça...
Ou après, ou même avant, quand on explique... Même avant, vous avez des réunions d'information, par exemple, où on va expliquer aux femmes, bah voilà ce que c'est qu'une fécondation in vitro, voilà ce qu'on va vous faire, voilà ce que vous allez subir comme traitement. Et à ce moment-là, quand on explique ce processus, on peut invoquer... Ce qui donne des choses assez surréalistes, c'est-à-dire que vous avez un diaporama avec plein d'outils techniques, vous voyez des éprouvettes, des seringues, des champs opératoires, et puis à la fin, la sage-femme qui conclut la réunion d'information vous dit non mais après c'est la nature qui décide.
C'est paradoxal quand même.
Voilà, c'est toujours cette invocation du mystère et de la non-maîtrise. Mais oui, je pense que vous avez raison. C'est aussi une question de c'est aussi la question de la liberté. Enfin, pour la philosophe que vous êtes, je pense que c'est intéressant. Ce qui est en jeu aussi, c'est la question de la liberté, de l'autonomie.
Ouais, on a envie de préserver une petite poche d'indétermination, quoi. Voilà. Moi, ça me fait penser un peu au début du traité de Lucrèce de la nature. Je sais pas si vous avez en tête le début où il décrit un peu la naissance du monde. Et c'est super, c'est très drôle parce qu'il décrit donc tous les atomes qui se baladent de manière complètement erratique. Il dit qu'au commencement était le hasard et que juste à un moment, il y a juste deux atomes qui se sont rencontrés et puis ça a fait boule de neige. Globalement, ça a créé le monde. Et du coup, on a vraiment, je trouve, et puis même, on voit c'est ce qui est dit un moment dans l'ouvrage, c'est le parallélisme qu'on fait dans nos sociétés occidentales entre la théorie de l'évolution qui serait, enfin, de Darwin qui serait basée sur le hasard et la façon dont l'être humain dont l'être humain émerge, quoi, dont un individu est fabriqué, c'est aussi avec un hasard de combinaison d'ADN, quoi. Et du coup, si on continue un petit peu sur cette opposition qui n'en est pas vraiment une, du coup, entre la première et la deuxième partie de l'ouvrage, qu'est-ce que ça implique aussi sur la conception de l'individu, de l'individualité, et comment est-ce que enfin, vous avez pu articuler enfin, vos recherches sur la filiation et sur la procréation médicalement assistée et la manière dont certaines sociétés vont être plus individualistes que d'autres ou au contraire plus collectives. Enfin, je ne sais pas quel est le rôle de...
Alors là, c'est une vaste question. Ouais. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Enfin, sauf à dire que de toutes les façons, l'individu, où qu'il soit et où qu'il naisse, il est inscrit dans un faisceau de relations, en fait, et que cet individu, il naît aussi de l'interaction entre, enfin, de ce faisceau de relations et de ce qui a conduit à son arrivée dans le monde. Après, il y a des règles sociales, il y a des règles juridiques, il y a des règles morales. Il y a des normes religieuses, sociales, politiques qui vont définir aussi la place de. C'est ce qui était en jeu, par exemple, avec cette question de l'ouverture de la procréation médicalement aux couples de femmes. C'est du coup comment on va établir la filiation de cet enfant né. Voyez, donc c'est aussi un enjeu politique la façon dont se définit cet individu.
Donc on voit que c'est intéressant de voir comment plus on progresse en technologie, enfin en science, dans la connaissance et dans la manipulation de la procréation, et plus il y a des vieilles questions qui reviennent. Enfin, je trouve ça amusant parce que on a un peu l'impression qu'il y aurait d'un côté la procréation médicalement assistée et de l'autre la procréation naturelle qui serait dans nos sociétés occidentales, en tout cas la famille nucléaire avec le papa, la maman, puis les enfants, et puis ça serait une espèce de fausse simplicité en fait. Quand on creuse un petit peu et qu'on voit comment les gens réagissent aux différents protocoles médicaux qu'ils doivent suivre pour avoir un enfant quand ils ont un peu du mal à en avoir ou quand ils peuvent pas en avoir, on voit qu'en fait ça c'est un révélateur de choses qui étaient préexistantes aussi. Enfin, c'est intéressant de voir comment le progrès technologique va révéler des choses qui sont peut-être plus fondamentales dans nos sociétés, quoi, dans notre rapport à la filiation.
Juste un petit chiffre, en fait, depuis le dernier recensement de l'INSEE, c'est la première fois que il y a maintenant 49% seulement des familles sont des familles nucléaires, en fait. C'est-à-dire avec les deux parents qui vivent avec leurs enfants sous le même toit, donc deux parents qui sont mariés ou en union libre. Donc voilà, donc en fait, cette famille nucléaire, non seulement c'est une invention historique, enfin, elle n'a pas de tout temps existé, mais aujourd'hui, en fait, elle c'est même plus la majorité des familles en France. Quoi. Donc voilà, donc vous avez, je crois, un enfant sur deux qui ne vit pas avec ses deux parents. Hein. C'est, mais voilà, ça, c'est une petite.
Non, mais c'est vrai qu'on quitte les laboratoires et on va dans n'importe quelle famille recomposée avec des demi-frères, demi-sœurs, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Voilà, donc ça, c'est. Voilà, c'est après, et après, je me souviens plus de la suite.
non, je voulais juste vous faire réagir sur ça, sur justement comment les technologies de pointe pouvaient nous faire réfléchir sur la notion même de filiation, quoi.
Ça force forcément à. Ça, Anne en parlerait bien mieux que moi, c'est quand même une grande spécialiste de la filiation. Mais ça nous force évidemment à repenser nos règles de filiation et à la question qui est le parent de qui, aujourd'hui il n'y a plus une seule réponse, quoi. C'est ça qui est compliqué, compliqué ou extrêmement intéressant pour nous en tout cas. On ne peut plus apporter à la question qui est le parent de qui, il n'y a plus une réponse unique, quoi. Et qu'il faut composer désormais avec ces techniques, avec ces possibilités qui sont offertes, par exemple, aux femmes seules ou aux femmes en couple lesbiennes d'avoir des enfants. Il faut composer avec les règles de don, même à l'intérieur de couples hétérosexuels, avec l'accueil d'embryons. Donc la filiation, elle n'est pas uniquement, en tous les cas, ce dont ça témoigne, c'est que, on le savait déjà, et c'est ce que montrent aussi les exemples dans cette première partie, c'est que la filiation, c'est pas du biologique, quoi, c'est du social. Encore une fois, nulle part un homme et une femme n'ont suffi à faire un enfant. Il y a une part de social extrêmement importante dans ces questions-là.
Et le fait de d'isoler l'embryon comme un objet d'étude et comme un objet relationnel, en quoi est-ce que ça peut avoir des... Enfin, je pense notamment au débat récent sur l'avortement aux États-Unis, ou à la façon dont, très rapidement, quand on commence à s'intéresser à la, à, ouais, à la, à la nature relationnelle en fait de l'embryon. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de justement dire ah mais justement comme c'est pas juste un amas de cellules, on peut pas s'en débarrasser comme ça, c'est plus compliqué, c'est un être social, etc. Enfin le fait que l'embryon soit socialisé dès le moment où il est nommé, est-ce que ça pose pas
Un amas de cellules peut être socialisé. En fait, je veux dire, c'est pas parce qu'il est socialisé qu'il est personnifié. En fait.
C'est quoi la différence entre les deux?
Quand on dit qu'un embryon est pris dans un faisceau de relation, c'est-à-dire que cet embryon, il est au moment où il est là, où il apparaît, bah, pour qu'il apparaisse, il y a eu la laborantine qui a fécondé l'ovocyte et le spermatozoïde dans la boîte de Pétri. Il y a eu le médecin auparavant qui a donné l'indication. Il y a eu le couple ou la femme qui disait bah, voilà, j'aimerais bien un enfant. Il y a eu un donneur. C'est ça, le faisceau de relation. C'est pas. Il donne pas naissance à une personne. Il fabrique un embryon que du coup il faut penser dans toutes ces relations là. C'est-à-dire que c'est la place de cet embryon, il faut la réfléchir en fonction de la place qu'occupe chacun des partenaires à son élaboration quoi, en quelque sorte. Et justement, je pense que ça serait une confusion. Enfin, c'est dangereux hein, ce qui se passe en ce moment là aux États-Unis. Enfin, moi, je trouve que c'est une remise en cause de ce que personnellement je qualifie de droit fondamental, le droit à l'avortement. Et préciser. Alors, ce que ça nous montre aussi, c'est l'importance des normes de représentation. En fait, et là aussi, et les enjeux aussi politiques autour de cette question-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui s'est passé avec cet article-là qui a fuité, je ne sais plus là, si c'est Atlantico-Politico, là, enfin bref, avec la remise en cause, ce qui est très important de souligner, c'est le pouvoir que prennent en fait les évangéliques américains sur ces questions-là et comment on arrive désormais à s'imposer dans le champ politique, c'est-à-dire on a même plus besoin de Trump. Hein. C'est quand même assez impressionnant là ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement démocrate et on a des groupes de pression évangéliques très forts qui arrivent par le biais des lobbies voilà à s'infiltrer et à faire valoir des normes qui sont des normes parmi d'autres. Et je dirais que ça c'est le travail de cet ouvrage, c'est de montrer que la relativité des normes, c'est-à-dire que c'est une norme. Ça n'est pas une vérité et qui ne doit pas forcément forcément s'impliquer. Mais ce que je trouve important de souligner dans cette question, dans ces débats là très contemporains autour de la question du droit à l'avortement aux États-Unis, c'est l'importance du politique, c'est-à-dire que sur un sujet tel que l'embryon, hein, voilà, un amas de cellules, et ben les enjeux politiques sont extrêmement importants.
C'était l'intérêt aussi de votre travail au Japon, sur la manière dont des nouveaux rites religieux avaient été, des rites religieux avaient été quasiment institués et appuyés par des groupes plutôt conservateurs, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, c'est que un nouveau culte est apparu pour honorer l'esprit des enfants qui auraient été avortés ou des morts-nés. Et de tous ces enfants qui sont voilà, morts en couche, quoi, ou avant la couche. Mais du coup, si vous avez un complément sur la dimension politique du rite religieux, par exemple.
C'est vrai que cette dimension-là est tout à fait importante, et d'autant plus qu'elle a été accompagnée au début, donc tout au début, en fin des années 60, par des groupes. D'extrême droite, en fait. Donc là, ça rentre parfaitement. Néanmoins, le problème, comme toujours, c'est si on sort un peu de ce moment-là, on voit par exemple que au moment de la modernisation du Japon, donc au 19e siècle, donc déjà le gouvernement restauré de l'empereur Meiji, déjà a bloqué à la fois l'enfanticide, parce que l'avortement n'était pas vraiment facile. Il y avait des gens dans les villages qui suivaient les femmes qui étaient enceintes, donc le contrôle pouvait être réinstauré à chaque moment. Ce n'est pas seulement cette période-là qui a commencé, et malheureusement, moderne, elle a commencé par cet aspect, disons, lié de cas extrême droite, mais elle a été reprise par les milieux religieux qui n'étaient pas forcément d'extrême droite, et ça, la mayonnaise a prise, et donc c'est devenu pas vraiment une norme partagée par tous, mais néanmoins quelque chose qu'on voit apparaître, par exemple, dans les films d'horreur, ou quelque chose comme ça. Donc ces esprits malveillants ou tourmentés, qui avant étaient exclus, mais n'existaient pas, parce que la famille pouvait très facilement, par exemple, reprendre, pour ainsi dire, d'enfants en plus, de cousins qui en avaient 3 ou 4, et qui avaient arrivés. On dit aujourd'hui que ça diminue, que les effets les plus néfastes que j'ai évoqués se sont un peu radoucis, mais avec l'idée que la population baisse et que les bons japonais, c'est-à-dire les japonais de souche, vont diminuer, qu'on aura l'horreur d'immigrer donc de l'extérieur, il va y avoir probablement des pressions, peut-être pas efficaces, mais sur le fait de diminuer ou limiter l'avortement. Mmh. Ça, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer.
Mais ce que vous avez dit sur les cousins qui s'élèvent les uns les autres, ça fait penser aussi à un thème récurrent, c'est celui de la parenté, parce que du coup on parle de filiation, mais il y a aussi l'idée que la parenté peut être assumée par d'autres personnes que les géniteurs. Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme, mais ça paraît basique, mais c'est vrai que c'est jamais pensé comme tel, quoi. Enfin, on essaye de faire croire, en tout cas, que ce serait pas naturel, alors qu'en réalité, ça l'est peut-être, traditionnellement, c'était quand même le cas pendant très longtemps, quoi.
Oui, oui, mais la parenté n'est pas assumée seulement par les géniteurs. On a des exemples dans toutes les sociétés, là.
Oui, oui. Mais oui, donc on voit qu'il y a quand même des implications politiques et sociales et économiques aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé de toute l'économie ensuite des biotechnologies et de l'aide à la reproduction qui est qui est derrière. J'ai reçu une newsletter d'un gourou de la Silicon Valley américain qui promeut un peu, c'est un transhumaniste, et du coup lui il investit énormément d'argent aussi, enfin c'est aussi des sommes colossales qui sont investies dans cette industrie des biotechnologies, des la congélation d'ovocytes et de la recherche dans ce domaine-là, quoi. Du coup c'est important de le penser aussi comme un phénomène anthropologique, sociologique, philosophique,
avant, oui, avec des répercussions économiques aussi.
Avec des répercussions économiques, mais prendre avec des pincettes. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, en tout cas, vous êtes déplacée. Merci beaucoup, Apolline.
Merci beaucoup, Séverine, c'était très intéressant.